Bonsoir, vous allez bien? Vous êtes content d'être là? Oui? Je suis content de vous voir aussi. On va continuer du coup sur notre lancée, alors c'est le deuxième mois, hein, mais on est en fin de deuxième mois d'ailleurs, sur ma relation avec les autres, et j'ai très sobrement intitulé ce partage « L'éthique chrétienne, une manière de vivre tournée vers les autres ». Comme ça au moins je ne me trompe pas, je suis dans le thème, il y a éthique, et il y a les autres dans le titre. J'aimerais commencer ce partage avec les deux premiers versets de Romains chapitre 12. « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas y voir ici le fondement de ce qu'on appelle l'éthique chrétienne? Ce savoir-vivre chrétien dont qu'on travaille depuis le début de l'année. Si on est appelé dans ce passage à un changement de comportement, à un renouvellement de nos pensées, Paul nous donne ici une information extrêmement importante sur ce qui doit nous motiver à cette transformation totale. Ce n'est pas la peur de Dieu, de son jugement, de sa colère. Ce n'est pas un devoir à respecter sous peine de se voir sanctionné. Ce renouvellement, il est motivé et guidé par l'immense bonté de Dieu, par l'amour qui nous témoigne continuellement. Pour reprendre une formule de Marjorie Legendre, qui est professeure d'éthique à la Faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, l'éthique chrétienne n'est pas d'abord une éthique du devoir, elle est avant tout une éthique de la reconnaissance. Et j'en ai fait mon premier point, la reconnaissance, le fondement de l'éthique chrétienne. Alors qu'est-ce que ça change qu'on soit dans une éthique de la reconnaissance et pas une éthique du devoir? Ça change une chose importante, c'est que ce n'est pas par notre propre force que nous sommes transformés, c'est par l'amour que Dieu nous a manifesté, par notre compréhension grandissante de cet amour. Ça ne signifie pas que nous ne sommes pas appelés à nous impliquer dans ce changement. Évidemment, il y a des efforts à fournir. Pour autant, Dieu, ici, même s'il ne fera pas notre part à notre place, il est le point central de cette éthique. L'essence même de la transformation à laquelle nous sommes appelés ne dépend pas de notre volonté faillible, de notre souci de respecter quelques préceptes religieux. Celle-ci est motivée par notre reconnaissance face à l'infinie bonté de Dieu, par l'amour qui nous a manifesté. Nous étions pécheurs, il nous a réhabilités, nous étions captifs, il nous a libérés, nous étions spirituellement malades, il nous a guéris, nous n'étions dignes d'aucun amour, et il nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a offert son Fils en sacrifice afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. C'est en reconnaissance de tout cela que nous nous laissons transformer par l'action du Saint-Esprit qui prend place en nous au stade de notre conversion, au jour où nous proclamons le nom de Jésus dans nos vies, où nous acceptons qu'il a donné sa vie pour nous, pour le pardon de nos péchés, le jour où nous reconnaissons que c'est par ses souffrances que nous avons bénéficié d'une réconciliation avec Dieu. Nous sommes transformés intérieurement par l'amour du Père et il en découle une nouvelle manière de vivre. Cette transformation intérieure qui ne peut pas rester invisible se révèle dans notre manière d'entrer en relation avec les autres. Et quand on y réfléchit, ça a du sens. Il est plus facile à quelqu'un de faire preuve de bonté à l'égard des autres quand il a lui-même pu en bénéficier au préalable. Pour s'en convaincre, il suffit de voir ce que donne un enfant qui a grandi sans recevoir d'amour pendant son enfance, qui a été mal accueilli dans la vie, qui ne s'est pas senti sécurisé par ses parents. Je me suis renseigné, j'ai demandé confirmation à ma sœur, donc je peux sans risque vous partager ça. Les recherches en psychologie du développement ont montré que les carences affectives précoces ne sont pas sans conséquence sur la vie relationnelle future. Ces travaux indiquent qu'un enfant qui a grandi dans un environnement émotionnellement pauvre, marqué par un manque de chaleur, d'attention ou de sécurité affective, développe plus fréquemment des styles d'attachement dits insécures. Ces modèles internes, construits dès les premières années de vie, influencent profondément la manière dont l'individu perçoit les autres et entre en relation avec eux. À l'âge adulte, ça peut se traduire parfois par des difficultés à faire confiance, par une peur marquée par l'abandon, une dépendance affective ou à l'inverse, une tendance à éviter l'intimité émotionnelle. La négligence affective est associée à une moins bonne qualité des relations interpersonnelles, à des relations instables et à une insatisfaction relationnelle persistante. Autrement dit, lorsqu'un enfant grandit sans avoir reçu d'amour, sans s'être senti aimé, accueilli ou sécurisé, il risque de construire des relations adultes marquées par l'insécurité, la méfiance, la difficulté à s'abandonner pleinement à l'autre. De la même façon, notre relation aux autres change quand nous faisons la rencontre de Dieu et de son amour. C'est en approfondissant cet amour, en découvrant l'étendue, que notre relation aux autres change. Nous sommes infiniment aimés et c'est en le comprenant que nous devenons capables d'aimer ceux qui nous entourent. Quand Jésus est interpellé par un pharisien qui lui demande quel est le plus grand commandement, Jésus lui répondra « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le premier et le plus grand commandement. Il y en a un second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Si les deux commandements ici sont jugés semblables, ce que confirmera Jean dans sa première lettre, quand il dira « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur », Jésus nous dit quand même que le premier et le plus grand commandement est « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée ». Ça témoigne d'une chose, c'est parce que nous aimons Dieu que nous aimons les autres. Le respect du premier commandement conditionne le respect du second. La conséquence de mon amour pour Dieu, c'est mon amour pour les autres. Mon amour pour les autres découle de mon amour pour Dieu. Et c'est pour ça, en réalité, que Jean nous dit qu'il n'est pas possible d'aimer Dieu si nous n'aimons pas les autres. Notre amour pour les autres, c'est le signe visible de notre amour pour Dieu, de l'amour de Dieu qui est entré dans nos vies. Ça rejoint ce qui a été dit dans le message de dimanche, et je reprends la formule puisque j'ai eu accès aux notes du pasteur qui intervenait la dimanche. L'amour de Dieu et l'amour du prochain sont inséparables, ils ne font qu'un. Si l'un disparaît, l'autre s'effondre aussi. Comme l'exprimera Jean dans 1 Jean au chapitre 4, au verset 7 à 11, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. De ce passage, je me suis dit que le croyant passait nécessairement par quatre étapes fondamentales. En un, il découvre que Dieu l'a aimé le premier et qu'il a manifesté cet amour par le sacrifice de son Fils. En deux, quand le croyant, ou du moins la personne qui va être portée à croire, accepte ce sacrifice comme sien, l'amour du Père entre dans sa vie. Il prend conscience que Dieu réside désormais en lui par le Saint-Esprit. En trois, face à cet amour infini, il apprend à aimer Dieu et son amour grandit pour lui. Et en quatre, il est progressivement transformé par cet amour dans son comportement, dans ses pensées, dans sa relation aux autres. L'éthique chrétienne est donc une éthique de la reconnaissance. Notre comportement, nos réactions, nos pensées sont guidés par notre reconnaissance pour ce que le Père a fait pour nous. Et quand on lit les Écritures, on s'aperçoit que ce rapport-là, de reconnaissance, il est constant. On nous dit que nous sommes portés à aimer Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean chapitre 4, verset 19. Je suis porté à aimer les autres parce que Dieu m'a aimé. 1 Jean chapitre 4, verset 11. Ou Jean 13, 34. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Je pardonne aux autres parce que j'ai été pardonné. On peut le voir dans Colossiens, au chapitre 3, au verset 13. « De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Une réciproque. Donc, ou encore dans Éphésiens, au chapitre 4, au verset 32. « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. parce que Dieu nous a pardonné en Christ, nous sommes appelés à nous pardonner les uns les autres. Je donne parce qu'on m'a donné. Matthieu chapitre 10, « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Je console parce que j'ai été consolé. Chapitre 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. J'ai pitié des autres parce qu'on a eu pitié de moi. On le voit dans la parabole du serviteur impitoyable dans Matthieu 18. Jésus mentionnera dans cette parabole cette parole. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Il y a là cette figure de Dieu qui nous a remis en entier notre dette, qui a eu pitié de nous, et nous sommes appelés à avoir pitié de ceux qui nous entourent, à avoir pitié des autres. Et enfin, je suis miséricordieux parce que je bénéficie de la miséricorde. Luc chapitre 6, verset 36. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Là où l'éthique religieuse renvoie constamment l'individu à lui-même, à sa propre image, à sa capacité à faire le bien, à sa capacité à respecter des préceptes, l'éthique chrétienne qu'évoque Paul dans Romains 12 nous appelle à ne pas regarder à nous-mêmes, mais à porter notre regard vers Dieu. C'est en dirigeant notre attention sur lui que nous comprenons l'étendue de la grâce qui nous est faite et que nous sommes en capacité de la partager autour de nous. Nous adoptons les bons comportements parce que nous sommes, jour après jour, transformés par l'amour que nous découvrons. On le voit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, qui nous dit ceci. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Plus nous contemplons la gloire de Dieu, plus nous passons du temps dans sa présence, plus nous sommes transformés à son image. D'ailleurs, l'image du miroir est particulièrement parlante ici. Avant de poursuivre, j'aimerais bien savoir, à votre avis, quelle est la procédure à suivre pour se voir dans un miroir. Allumer la lumière. S'approcher du miroir. Regarder le miroir. Le nettoyer s'il est poussiéreux. S'admirer. Se mirer. Comprendre ce qu'on voit. Pas être aveugle. Ok. Je trouve l'image du miroir particulièrement parlante. Pourquoi ? Parce que nous sommes appelés à être le reflet de Dieu comme Christ l'a été. Hébreux chapitre 1, verset 3 nous dit que Jésus est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Là-dessus, vous me suivez. Jésus, reflet de la gloire de Dieu. Or, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1 ou Éphésiens chapitre 5, verset 1 nous appellent à être des imitateurs de Christ. Très mathématiquement, si Jésus est le reflet de la gloire de Dieu et que nous sommes censés être des imitateurs de la gloire de Christ, nous sommes censés être, ou en tout cas être transformés, tels des reflets de la gloire de Dieu. Je suis donc appelé à refléter Dieu tel un miroir. Mais pour ça, deux conditions doivent être réunies, et vous les avez citées. Nous devons être dans sa présence déjà. Si on n'est pas dans la même pièce que le miroir, c'est compliqué. Ou du moins, c'est nous le miroir, donc si on n'est pas dans la même pièce que la personne qu'on est censé refléter, c'est compliqué. On doit être face à la personne qu'on est censé refléter. Et puis, on doit être aussi près que possible de la personne qu'on est censé refléter. Plus nous nous approchons de Dieu, plus nous, en tant que miroir, nous nous approchons de Dieu, plus nous reflèterons sa gloire, plus nous reflèterons sa personne dans sa perfection. Je suis allé sur ChatGPT et je lui ai demandé de produire une image. J'ai écrit mon prompt. Voilà ce que je lui ai demandé. je lui ai demandé un individu qui se porte au départ loin du miroir. On est d'accord que sur le miroir, la silhouette est petite. On ne situe pas les détails, on ne voit pas grand-chose à part une silhouette lointaine. Ensuite, le personnage se rapproche, ou du moins on rapproche le miroir, et là, on a quand même, normalement, beaucoup plus de détails. La personne apparaît beaucoup plus grande sur le miroir. Je pense qu'il en va de même pour nous en tant que croyants. Si je me tiens loin d'un miroir, si je me tiens en tant que miroir, pardon, loin de Dieu, je ne reflète qu'une petite partie de Dieu. Tout mon miroir reflète beaucoup de choses et à un petit endroit, j'ai la silhouette de Dieu. Plus en tant que miroir, je me rapproche de la personne de Dieu, plus Dieu prend la totalité du miroir, plus je peux situer les détails de la personne de Dieu, plus je peux voir sa gloire. Et je pense que c'est à ça qu'on est appelé, à nous approcher constamment en tant que miroir de la personne de Dieu pour le refléter dans sa totalité. C'est un espoir, une ambition inatteignable, mais en tout cas, on est appelé à ça constamment, à nous rapprocher du Père. Ça, c'était pour la dimension éthique de la reconnaissance. Si on revient à ce que nous dit Romains 12, on est appelé à une transformation profonde par l'action du Saint-Esprit. Je reprends le passage. Romains chapitre 12 nous dit deux choses. On a vu le fondement de l'éthique chrétienne. Maintenant, on va voir ce à quoi on est appelé. Premièrement, offrir notre corps comme un sacrifice vivant. On est donc invité à nous offrir complètement à Dieu, à ne rien retenir, à lui confier notre vie entière. Et on est appelé à ne pas se laisser modeler par le monde actuel, à ne pas nous conformer au siècle présent, nous dit la version Louis II, et à se laisser transformer par le renouvellement de notre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Et j'ai trouvé intéressant l'opposition qui est marquée ici par le mot « mais ». Tout le monde voit ce que c'est une conjonction de coordination, mais où est donc Ornicard ? Visiblement, on en a perdu un en route, donc n'est plus une conjonction de coordination. Mais bref, le « mais » ici marque une opposition entre d'une part le fait de se conformer au siècle présent et le fait de se laisser transformer par le renouvellement de nos pensées. L'un ne peut pas aller avec l'autre. Ça fait sens lorsqu'on voit la signification du mot « conformer ». Ça signifie « prendre la forme de » ou encore « donner à quelque chose sa forme définitive ». Alors que le mot « transformer » renvoie au fait de dépasser une forme initiale, en allant au-delà de cette forme. Je ne sais pas si vous voyez la double opposition, mais se conformer revient à une forme donnée, à prendre une forme donnée, quand transformer appelle à la dépasser. Pas du tout sur le même rapport ici. On s'enferme dans un cas, on cherche à dépasser dans l'autre. La deuxième opposition, c'est que se conformer renvoie à une approche statique, puisque ça revient à s'enfermer dans une forme définitive, alors que se laisser transformer renvoie à un processus dynamique qui n'a pas de fin. Si nous laissons transformer par Dieu, nous ne nous enfermerons pas dans une forme que le monde nous présente comme la norme et qui cherche à nous imposer. Mais nous serons en mesure de discerner la volonté de Dieu, ce qui lui est bon, agréable, ce qui est en mesure de lui plaire. Ça renvoie à ce que Jésus dira dans sa prière dans Jean chapitre 17, juste avant que Judas ne le fasse arrêter. Il affirmera notamment que les hommes à qui il a fait connaître le nom de Dieu, étaient du milieu du monde, mais qui lui ont été donnés à lui. De sorte qu'aujourd'hui, s'ils sont dans le monde, ils ne sont plus du monde. L'idée centrale de ce passage, c'est donc que lorsque nous sommes en Christ, nous ne sommes pas hors du monde, nous continuons à vivre dans ce monde, mais nous ne sommes plus du monde, nous ne répondons plus des préceptes enseignés par ce monde. Par notre adhésion à l'œuvre de la croix, nous avons été extirpés du modèle du monde pour entrer dans un processus de transformation de gloire en gloire pour nous rapprocher au plus près de l'image de Christ. Mais alors, là, on a une question qui pointe. Je ne sais pas si vous l'avez. Moi, j'en ai une à l'issue de ce développement. C'est quel est ce modèle qu'offre le monde ? Quel est ce modèle auquel nous sommes appelés à ne pas nous conformer ? Si on est appelé à ne pas nous conformer à quelque chose, autant savoir de quoi il est question. Et Paul dira dans Galates au chapitre 5 que ce qui procède de l'homme livré à lui-même, sans Dieu, c'est l'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivronnerie, les orgies et autres choses de ce genre. Tel est le monde qui s'offre à nous et dans lequel nous sommes appelés à évoluer sans y prendre part. Un monde de péché, oui, et notamment, par rapport au thème d'aujourd'hui, un monde sans amour puisqu'il y règne la discorde, la division, la jalousie. Et je trouve que ça rejoint ce que Paul dira à Timothée dans 2 Timothée chapitre 3 quand il parle des derniers jours. Il dit « Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Là, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas le reflet de notre société ? Une société où l'individualisme règne en maître, un monde qui prône la réalisation personnelle aux dépens des autres, le collectif est sacrifié au bénéfice de l'individu, la quête du bien-être personnel est priorisée, ça invite à prioriser mon équilibre, mon développement, ma réussite, et à force de cultiver ce repli sur soi, on en oublie le rapport aux autres. À travers les réseaux sociaux, par exemple, s'est développée une culture de l'image où l'on ne cherche plus seulement à être, mais à paraître, à construire une version visible et valorisée de soi-même. On est d'accord ? Ouais. On a aussi les coachs en développement personnel qui sont très présents sur les réseaux et qui multiplient les phrases choc. J'en ai relevé certaines. Ce sont des vraies formules. Vous avez en vous dès maintenant tout ce qu'il faut pour faire face à tout ce que le monde peut vous présenter. Chouette. Vous êtes le maître de votre destin, le capitaine de votre âme. Prenez le contrôle de votre vie ou quelqu'un d'autre le fera. Et alors celle-là, je crois que c'est la meilleure. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Waouh. Bon, du coup, ça invite à aller taper sur l'élite tout de suite, parce que si je dois être la moyenne de quelque chose, autant que ça soit la meilleure. Et je me suis dit que ça rejoignait la formule qui est utilisée dans un film qui est sorti récemment de Pierre Niney, Gourou, qui renvoie exactement à ça. Ce que tu veux, c'est ce que tu es. On est littéralement dans cette dimension, même si ici ça se veut satirique, on est évidemment ici dans une dimension du moi. Et comment ne pas se conformer à cette culture du moi dans laquelle nous baignons au quotidien ? L'avantage, c'est que Paul, quand il pose les bases, il donne aussi les réponses. Paul l'expose dans Galates au chapitre 5, au verset 13 à 18. « Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole. Aime ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous blessez les uns à les autres, et si vous vous entre-déchirez, prenez garde, vous vous détruirez mutuellement. Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre, c'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. » Telle est la solution. Que le Saint-Esprit reçoive toute la liberté dans son œuvre de transformation. Qu'aucun aspect de notre vie ne lui échappe, afin que nous puissions goûter à la plénitude de l'amour qui nous est offerte par le Père et qui souhaite que nous partagions les uns avec les autres. On notera que le mot grec utilisé par Paul de Romains 12 pour « laissez-vous transformer » par le renouvellement de votre pensée, c'est « métamorpho », qui n'est utilisé qu'à 4 reprises dans la Bible. 2 pour la transformation que le Saint-Esprit réalise chez les croyants, dans Romains 12 et dans 2 Corinthiens 3, et 2 fois pour parler de la transfiguration de Jésus, dans Matthieu 17 et Marc 9. De la même façon que pendant un court instant, Jésus s'est tenu sur cette haute montagne, aux côtés de Moïse et d'Élie, que son visage s'est illuminé comme le soleil, que ses vêtements sont devenus blancs comme la lumière, révélant la nature divine, sa nature divine, à Pierre, Jacques et Jean, qui l'accompagnait. De la même façon, nous sommes appelés à nous laisser transformer par le Saint-Esprit, à nous revêtir de Christ et à refléter sa nature divine dans notre quotidien. Et quand Paul évoque ici une transformation, il sait de quoi il parle. Je ne sais pas si vous vous souvenez du parcours de Paul, mais qui de mieux pour présenter une œuvre de transformation ? Lui qui était un pharisien, instruit au pied de Gamaliel, l'un des rabbins les plus célèbres de l'histoire, il avait les meilleures raisons du monde de croire en sa propre justice et il rencontra Jésus. Et il dira ceci dans Philippiens 3, au verset 4 à 14. « Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le dire, hein. Ça c'est Paul. Hein. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout. Et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ainsi, si sa rencontre avec Jésus l'a transformé sur le chemin de Damas et a marqué le reste de son existence, lui permettant de passer de premier persécuteur de chrétiens à premier disciple de Jésus, de complice du meurtre d'Étienne à esclave de Christ, il n'en reste pas moins qu'ici, Paul fait valoir qu'il est encore dans ce processus de transformation. Que ce processus de transformation, il le compare ici à une course et qu'il court pour gagner le prix. La vie chrétienne est un marathon, une course d'endurance et il faut tenir sur la distance. Et si Paul nous dit à ce stade-là qu'il n'a pas abouti encore sur cette course qui est cette transformation perpétuelle, c'est donc que nous avons encore pas mal à parcourir aussi. Nous sommes appelés à vivre cette transformation tous les jours de notre vie en nous abandonnant à Dieu et en laissant le Saint-Esprit agir. J'en viens à mon troisième et dernier point qui a été en réalité le point qui m'est venu tout de suite quand je me suis interrogé sur ce que j'allais apporter ce soir. Je me suis dit, bon, ma relation aux autres, l'éthique chrétienne, comment est-ce que je vois les choses, comment les deux se rejoignent, et il y a quelque chose qui m'est venu en pensant à Jésus, c'est sa compassion. Et je me suis progressivement convaincu à la lecture de la Bible que la compassion est la concrétisation profonde de notre transformation par le Saint-Esprit. La dernière chose qui a abordé, c'est donc la compassion qui marque la profondeur de cette transformation et ses conséquences concrètes dans notre relation aux autres. Paul nous dit ceci dans Colossiens 3. Au verset 9, il nous dit que nous nous sommes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Au verset 10, il nous dit que nous avons revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Et il ajoute ceci au verset 12 et je trouve ça particulièrement intéressant. Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et j'aimerais m'arrêter avec vous sur cette notion de revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Le terme entraille, ce n'est pas un terme scientifique. Ça ne désigne pas un organe ou un groupe d'organes spécifiques. Pris en son sens restreint, c'est un synonyme d'intestin. Pour l'instant, pas très glamour. En son sens large et commun, ça désigne tous les viscères contenus dans la partie basse du corps, le ventre et notamment, du coup, les organes maternels. C'est pour ça qu'on parle des entrailles maternelles, du fruit des entrailles qui nous ont portés. Et enfin, dans un sens figuré, il renvoie à ce qui est profond, presque inaccessible, ce qui est le centre caché et vital. Il désigne ce qu'il y a de plus intime. Et les Hébreux faisaient des entrailles le centre de toute affection ou émotion douce, agréable, heureuse. Le terme, en réalité, aujourd'hui, on pourrait le remplacer par cœur. Ça désigne la source ici de tous les sentiments. Et cette idée de faire des entrailles le siège des affections s'explique par les impressions qui sont ressenties dans les entrailles sous le coup d'une émotion. Vous voyez ce que ça donne un petit peu vous avez peur, ça se tord. Vous voyez quelqu'un souffrir. C'est pas sympa non plus. Les entrailles sont le centre des émotions, en tout cas dans la tradition hébraïque. Et on retrouve la même idée dans l'Ancien Testament. Donc dans le Nouveau, le terme qu'on a lu, c'est « splachnon », « splachnon », entrailles, compassion, cœur dans lequel réside la miséricorde. Et en hébreu, j'ai trouvé un petit peu son parallèle, c'est Rakam, qui est à la fois traduit par entrailles, mais aussi compassion et miséricorde. C'est le terme qui est notamment utilisé dans Genèse 43, quand Joseph est ému de voir son frère Benjamin. On nous dit, ses entrailles étaient émues pour son frère, il avait besoin de pleurer, il entra précipitamment dans une chambre et il y pleura. C'est le terme aussi qu'on trouve dans 1 Roi 3, quand deux femmes se disputent, vous savez, la maternité d'un bébé et que Salomon, roi à l'immense sagesse, propose de couper l'enfant en deux pour mettre fin au litige. Et alors, il ne le fait pas, évidemment. Et la vraie mère de l'enfant sent ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et puis, c'est le terme qu'on retrouve dans Ésaïe 63, quand le prophète fait appel aux compassions de Dieu pour le peuple et qu'il parle du frémissement des entrailles et des compassions de Dieu dans Ésaïe 63. Ainsi, ainsi, dans la Bible, les entrailles sont souvent le siège des affections. Parfois, elles sont émues, d'autres fois, elles sont bouleversées. Et puis, la Bible nous dit que celui qui ferme ses entrailles, il est insensible, il manque d'amour pour les autres. C'est ce qu'on voit dans 2 Corinthiens 6, versets 11 à 13, où Paul nous dit « Notre cœur s'est élargi, vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants, élargissez-vous aussi. » Ou dans 1 Jean, chapitre 3, verset 16, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, Jésus. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? » Nous sommes donc appelés à revêtir des entrailles de miséricorde, des entrailles de compassion. C'est quoi la compassion ? C'est un sentiment qui porte à prendre part à la douleur, aux souffrances d'autrui. C'est un sentiment de pitié qui nous rend sensibles au malheur d'autrui. Autrement dit, nous devons nourrir un amour profond pour ceux qui nous entourent. La transformation que réalise le Saint-Esprit en nous n'a pas pour seul effet de nous permettre d'affirmer que nous apprécions tout le monde, ou de nous rendre polis avec tout le monde, ou de faire dire que, de toute façon, on n'a pas d'ennemis, donc on respecte ce commandement qui est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Le simple fait d'être poli et sympathique avec tout le monde n'est que le début du processus. Ça a été soulevé dimanche, on ne doit pas confondre amour et émotion. Le terme grec utilisé dans Jean 13, lorsque Jésus invite chacun à aimer les uns les autres, c'est agapé, un amour qui consiste à se donner volontairement à l'autre. Il n'est donc pas question par nature de sentiments, mais de comportements, d'émotions, mais de décisions et de mise en action. C'est ce qui a été soulevé dimanche. Pourtant, à plusieurs reprises dans les évangiles, il est question d'une dimension émotionnelle quand Jésus guérit, soulage, délivre. Je ne vais peut-être pas tous les lire, mais vous voyez que dans Luc 7, on nous dit que le Seigneur fut ému de compassion. Pareil dans Matthieu 20, pareil dans Marc 1, au sujet de gens qui ont perdu un être cher, au sujet de gens qui ont besoin d'être guéris. Et c'est le même terme qu'on retrouve quand on nous dit que Jésus fait face aux foules. Dans Matthieu 9, voyant la foule, il fut ému de compassion. Matthieu 14, même chose, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Ou encore Marc 8, je suis ému de compassion pour cette foule. Enfin, c'est aussi ce qu'il enseigne à ses disciples au travers de ses paraboles. Par trois paraboles, il nous parle de cette notion d'être ému de compassion. C'est le cas dans la parabole du fils prodigue, c'est le cas dans la parabole du bon samaritain, c'est le cas aussi dans la parabole du serviteur impitoyable. Ça montre que si nous avons notre part à faire en portant consciemment notre regard sur l'autre, comme Jésus le fait dans chacun de ses textes, l'œuvre que Dieu veut réaliser dans nos vies est plus profonde qu'on ne pourrait l'imaginer. Le Seigneur souhaite que tout notre être respire l'affection pour tous, que notre nature profonde, que les recoins les plus intimes de notre être soient tournés vers les autres. Nos entrailles doivent s'ouvrir aux autres. En cela, la compassion est la concrétisation la plus profonde de cette transformation intérieure que le Saint-Esprit réalise en nous. C'est d'ailleurs eu égard à cette compassion que nous avons été rendus participants du royaume de Dieu. Et ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Je l'ai dit tout à l'heure, l'éthique chrétienne, c'est l'éthique de la reconnaissance. Or, c'est parce que nous avons bénéficié de la compassion de Dieu que nous sommes appelés à compatir avec les autres. Un passage des évangiles résume très bien le chemin dans lequel nous sommes passés pour accéder au Père. Je ne vais peut-être pas vous le lire en entier. C'est Jean chapitre 5, où Jésus monte à Jérusalem et croise un paralytique sur le côté, alors que ce paralytique attend près des piscines de Bethesda. Et il attend qu'un ange, parce que une rumeur courait que lorsqu'un ange venait et touchait l'eau de cette piscine de Bethesda, celui qui touchait l'eau le premier était guéri. Donc, la Bible nous dit dans Jean 5 qu'il y avait sous les portiques de la piscine de Bethesda un grand nombre de malades, d'aveugles, de boiteux, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Pourquoi prendre ce passage ? Il n'est pas question explicitement de la compassion, et on peut même s'interroger quel rapport avec nous. En hébreu, le terme de Bethesda signifie « maison de la miséricorde », »,« maison de la compassion ». Les piscines de Bethesda, c'était donc les bains de la maison de la compassion. Vous me suivez pour l'instant. Pourquoi ce nom ? Parce que c'était dans ces bains que l'on lavait les brebis qui étaient emmenées au temple pour les sacrifices rituels. Les bergers, donc les piscines de Bethesda sont ici. Ça, c'est la muraille. Ici, vous avez ce qu'on appelle la porte des brebis. Donc, les gens, les bergers amenaient leurs brebis par cette route-là. À leur droite, les baignaient dans la piscine de Bethesda, puis les intégraient dans la ville pour rejoindre le temple pour qu'elles servent de sacrifice. Elles venaient d'où ? Oula, c'est des belles images, ça. Elles venaient d'où, ces brebis ? Elles étaient en pâturage, généralement, ici, du côté de Jéricho, entre Jéricho et Béthanie. Donc, les bergers les emmenaient ici pour paître, et puis, quand il fallait amener des brebis pour les sacrifier, ils prenaient le chemin que je vous ai montré tout à l'heure, à savoir celui-là, qui est le chemin de Jéricho, et qui nous emmène directement aux piscines de Bethesda. Et donc, c'est ce que je disais, à l'époque de Jésus, une rumeur s'était répandue qu'un ange venait de temps en temps remuer l'eau de ses bains et que le premier qui descendait dans la piscine était guéri. Il y avait donc une foule de pauvres gens, malades, boiteux, aveugles, paralytiques, qui attendaient que cette eau bouge. Il y avait donc une foule de pauvres gens qui souffraient et qui attendaient dans cette maison de la compassion, dans cette maison de la miséricorde. Ce qui est intéressant, c'est que ces gens, n'avaient bien souvent pas le droit de rentrer dans le temple. Ils étaient donc condamnés à attendre désespérément dans la maison de la compassion, cette maison où régnait la souffrance et la maladie. Ils stationnaient aux portes de la ville, sous les portiques de la porte des brebis. Or, donc, Jésus, passant par là, porte le regard sur un de ceux qui attend ici et lui demande s'il veut être guéri. Jésus, par la compassion dont il va faire preuve ici, vient concrétiser le nom que porte la maison où attendent tous ces malades. On est d'accord avec ça. Vous avez une foule de malheureux au niveau de la maison de la compassion, finalement une maison de souffrance. Jésus passe par là, fait preuve de compassion en se tournant vers l'un et concrétise véritablement le nom que porte cette maison. Où est le lien avec notre situation ? Je pense que nous sommes comme ce malade. Lorsque nous étions captifs du péché, nous n'avions pas le droit d'entrer dans le temple. Nous n'avions pas d'accès au Père. Nous étions condamnés à attendre sous les portiques de la maison de la compassion. Nous étions avec cette foule de malades, cette foule de gens perdus, et on était privés de cet accès au temple. Puis nous avons fait la rencontre de Jésus, comme ce malade, qui nous a guéris, purifiés en accomplissant le sacrifice parfait. Il nous a fait nous lever, entrer dans la ville par la porte des brebis, pour nous donner un droit d'accès au temple à la présence du Père. Jésus dira dans Jean chapitre 10, versets 7 et 9, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Jésus est la porte des brebis. Nous étions en attente dans la maison de la compassion avec nos maladies, avec nos fardeaux, avec nos péchés. Jésus s'est arrêté à notre niveau, nous a relevés et nous a introduits par sa personne, par son corps, dans le temple nous permettant d'accéder au Père. Ça rejoint ce que nous dit Hébreux chapitre 10. Nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. Le bon berger... On peut aussi se dire, on est dans la situation du malade, mais on peut aussi se dire que nous sommes comme ces brebis qui étaient en train de paître dans les pâturages de Judée, loin du temple et de Dieu, et près de la ville de Jéricho. Vous savez ce que représente la ville de Jéricho dans la Bible ? Vous savez ce que signifie le nom Jéricho ? La ville des parfums. Et la ville de Jéricho représente régulièrement le monde avec ses bonnes odeurs, avec ses joies, avec ses agréments. Si on part du principe que nous sommes comme ces brebis qui étaient en train de paître près de cette ville de Jéricho, proche de ses parfums, de ses odeurs qui viennent du monde, et puis que le bon berger nous a trouvés et nous a ramenés vers le temple qui nous a permis de réaccéder ici par cette route, qui nous a fait passer par cette maison de la compassion, et puis qui nous a introduit dans le temple, un endroit où nous n'avions pas le droit d'entrer. Jésus est ce bon berger. Jean chapitre 10, il le dira lui-même, « Je suis le bon berger, je connais mes brebis, elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Et pourquoi ces autres brebis ne seraient-elles pas finalement dans ce pâturage près de cette ville de Jéricho, en attente d'être assemblées, en attente d'être appelées, en attente d'être introduites dans cette ville de Jérusalem, dans ce temple, et donc dans l'accès au Père ? Si nous sommes introduits dans le temple, ce n'est pas pour mourir, comme les brebis à l'époque de Jésus. Hébreux 9 nous dit que Jésus s'est offert lui-même comme un sacrifice parfait et qu'il l'a fait une fois pour toutes. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on rentre dans ce temple ? Si on est des brebis, qu'est-ce qu'on vient faire dans un temple ? Eh bien, je pense qu'on en revient, et la boucle sera bouclée, au passage de départ dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2, pour lui offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Nous n'avons plus besoin de mourir, Jésus est déjà mort. Alors, nous venons offrir nos personnes, offrir nos corps, offrir nos vies. Il n'est plus question de mourir, puisque par Jésus, nous sommes morts au péché. Romains 6 nous dit que c'est en sa mort que nous avons été baptisés, que nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que nous marchions en nouveauté de vie. Alors offrons-lui nos vies entières, que notre vie lui soit dédiée, tel est le culte qu'il attend de nous. Que l'on considère qu'on était autrefois comme cette foule de malades qui attend désespérément la venue d'un sauveur dans cette maison de la compassion, que pouvaient être les piscines de Bethesda, ou encore comme ces brebis qui étaient en train de paître loin de la ville de Jérusalem et du temple. Une chose est sûre, nous avons bénéficié de la compassion de Dieu qui s'est fait homme, qui s'est sacrifié pour que nous soyons sauvés. Il a vu nos souffrances, il s'est abaissé à notre niveau, a souffert avec nous pour que nous soyons sauvés. L'éthique chrétienne, cette éthique de la reconnaissance nous appelle à la même compassion envers ceux qui nous entourent, à souffrir avec ceux qui souffrent, à pleurer avec ceux qui pleurent, à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et à porter notre regard sur nos frères et sœurs en Christ pour y discerner la gloire de Dieu. Ce sentiment profond, qui étreint le cœur, qui serre les entrailles, ne peut pas être fin. Il résulte de l'action du Saint-Esprit qui nous transforme en l'image de Jésus. C'est en cela que la compassion est la concrétisation la plus profonde de son œuvre en nous. Et je reprends le passage qui a été cité dimanche. Jésus le dira dans Jean 15, il est le cep, nous sommes les sarments. Sans lui, nous ne pouvons rien faire, mais si nous demeurons en lui, nous porterons du fruit. Si nous demeurons en Jésus, nous aussi, nous pourrons vivre une telle compassion pour les autres, cet amour profond. On ne saurait se contenter d'une vague gentillesse, parce que la vague gentillesse, on peut la produire par nos propres forces. Je pense que nous sommes appelés et que nous devons aspirer à cette compassion à laquelle nous sommes appelés à nous revêtir parce que nous en avons été et continuons d'en être les bénéficiaires. Amen. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je veux, Seigneur, te rendre toute la gloire qui t'est due, Père, parce que c'est vrai, tu t'es abaissé à nous, Seigneur, tu as fait preuve de compassion à notre égard, tu as été ému de compassion. Et Seigneur, mon Dieu, moi, c'est cet exemple, ce modèle que nous voulons suivre. Alors, nous voulons nous laisser transformer par toi, nous voulons ne pas nous conformer au siècle présent, mais véritablement nous approcher de toi pour que ton Saint-Esprit puisse œuvrer, qu'il puisse travailler nos entrailles pour que véritablement elles s'ouvrent aux autres, Seigneur, et que nous puissions voir vraiment du fruit à ce travail intérieur, à cette transformation profonde. Merci, Père, parce que c'est vrai que tu es bon, Seigneur, ta grâce est sur chacun, et je veux vraiment, Seigneur, mon Dieu, moi, te rendre toute la gloire qui t'est due ce soir. Merci de nous raccompagner, Seigneur, et vraiment bénis le reste de cette semaine. Sois béni, Père éternel. Amen.